Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 29 avril. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des bombes russes sur le centre de Kiev hier soir, alors que le chef de l'ONU y achevait sa visite. L'Ukraine parle d'actes odieux, vous entendrez Antonio Guterres dans ce journal. Les autres titres, Anaïs.
Pas encore officiellement investi et encore sur le terrain, Emmanuel Macron dans les Pyrénées pour gommer son image de président déconnecté. Saisi par les syndicats d'EDF, le Conseil d'État examine aujourd'hui le décret qui oblige l'entreprise à vendre son électricité moins chère. Et puis un inédit de Georges Perec en fin de journal. Projet fou pour raconter son Paris natal.
Les invités, les rendez-vous d'Inter ce matin. 7h45, le débat éco. Thomas Piketty, Dominique Seux échangent ce matin sur les chantiers économiques du nouveau quinquennat Macron. À 8h20, après Perec, le grand entretien de la matinale sur la sortie de guerre. Roman inédit de Louis-Ferdinand Céline à paraître chez Gallimard le 5 mai. On en parlera avec François Gibault et Pascal Fouché. Et toutes vos questions, amis auditeurs. 01 45 24 7000.
France Inter. Comment interpréter ce symbole Kiev bombardé par les Russes en pleine visite du chef de l'ONU? Ça s'est passé hier soir. Antonio Guterres venait de visiter Boutcha et d'autres villes de la banlieue de Kiev où des massacres ont été découverts après le retrait des hommes de Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'ONU était dans la capitale ukrainienne quand 5 missiles russes ont touché la ville pour la première fois depuis mi-avril. 2 se sont abattus sur un immeuble résidentiel de 25 étages dans un quartier central. Le souffle de l'explosion a endommagé les habitations alentour. Nos envoyés spéciaux Farida Noir et Fabien Gosset étaient sur place.
Sur les façades des immeubles, près des bâtiments frappés, des fenêtres pulvérisées, celles qui donnent sur la chambre des enfants d'Alexander au rez-de-chaussée est en 1000 morceaux.
Je suis choqué, mais ça va. Il y a eu l'explosion, les fenêtres se sont cassées. Là, je suis en train de les bâcher.
Des voisins se sont rassemblés près de la tente de la Croix-Rouge. Olga est encore sonnée.
J'ai vu une boule de feu grande comme ça, comme une explosion. Moi, j'étais dans ma chambre, près du mur, allongée sur mon sofa. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Et il y a eu la deuxième explosion. Là, les fenêtres ont été pulvérisées. J'ai couru dans le couloir. Les éclats ont volé contre le mur, mes meubles se sont cassés. Je suis très choquée, je ne comprends pas encore ce qui s'est passé.
Katerina est assise sur un banc, une boisson chaude à la main. Son mari lui passe une main dans les cheveux pour la réconforter. Elle s'est blessée au pied et au doigt avec des éclats de verre.
J'étais assise près de la fenêtre avec mon ordinateur et tout à coup, boum, j'étais sonnée, ça m'a assommée. J'ai bondi, le bord de la fenêtre est tombé. Comment j'ai fui, je ne sais pas. Mon mari est arrivé, il m'a prise, j'ai hurlé, j'étais choquée. Maintenant, je me suis calmée. En plus, j'avais dit, ah non, ça ne nous arrivera plus. Que Poutine aille au diable.
10 personnes ont été blessées dans ces attaques de missiles.
Farida Noir à Kiev avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Le président ukrainien y voit les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU. Antonio Guterres n'a pas été blessé, mais choqué et mis aussitôt à l'abri. Le chef des Nations Unies concluait à peine sa conférence de presse aux côtés de Volodymyr Zelensky. Il venait de reconnaître l'échec des Nations Unies dans ce conflit.
Le Conseil de sécurité a échoué dans sa tâche, qui consiste à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher et mettre fin à cette guerre. C'est une immense source de déception, de frustration et de colère. Laissez-moi vous dire que nous sommes au rez-de-chaussée du monde que nous voulons construire. Un monde de respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et du pouvoir du multilatéralisme. Un monde qui protège les civils, qui fait évoluer les droits humains, un monde dont les leaders s'abandonnent aux valeurs qu'ils ont promis d'améliorer.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU hier à Kiev, qui assure que l'organisation fait tout son possible pour évacuer les civils coincés dans ce qu'il appelle l'apocalypse de Mariupol. La coordinatrice des Nations Unies est en route pour le sud du pays. Comment interpréter ce bombardement donc, alors que plus tôt dans la journée, Antonio Guterres avait appelé la Russie à coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale. Plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre ont déjà été répertoriés par les Ukrainiens. À Kherson, les occupants russes veulent imposer à partir de dimanche le rouble à la place de la monnaie ukrainienne. Et puis dans le sud, la préoccupation de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle n'a toujours pas pu mettre les pieds à la plus grande centrale nucléaire du pays, celle de Zaporijjia, sous contrôle russe. Quant aux États-Unis, ils semblent sans limite dans leur livraison d'armes. Joe Biden demande une nouvelle aide colossale au Congrès, une rallonge de 33 milliards de dollars dollars, dont 20 milliards pour la fourniture d'armes et de munitions, 7 fois plus que ce qui a déjà été livré. Les États-Unis n'attaquent pas la Russie, assure le président américain. Ils aident l'Ukraine à se défendre.
Il est 7h05, président des villes, Anaïs, président des champs.
Eh oui, après la photo en banlieue parisienne il y a 3 jours, Emmanuel Macron veut donner une autre image aujourd'hui, celle du président de la ruralité. Déplacement près de Tarbes, bain de foule sur le marché de Barbazan, de Batte ce matin avant de fleurir la tombe de sa grand-mère à Montgaillard. Simon Le Baron, direction donc les montagnes pour une opération reconnexion avec le terrain.
Mes Pyrénées si chères, dit Emmanuel Macron, comme pour prouver tout à la fois qu'il a un cœur et qu'il n'est pas de nulle part. Parviendra-t-il un jour à se débarrasser de ces étiquettes qui lui collent à la peau? Président de l'élite, des villes, hors sol et manquant d'empathie, ses communicants eux-mêmes savent bien qu'en politique, la première image est presque impossible à corriger. Lui n'a de cesse de rappeler que ses ports d'attache sont loin de Paris, Amiens, sa ville natale, et donc ses montagnes, la terre des vacances d'enfants et de Germaine Nogues, cette grand-mère disparue en 2013 et dont il dit qu'elle a été si importante dans sa vie. Une terre qu'il a portée en tête dimanche dernier, 55% dans ses Hautes-Pyrénées, mais une terre surtout à qui Marine Le Pen a plus parlé que lui. En 5 ans, elle a gagné 13 points ici. Emmanuel Macron s'est promis de réparer cette France fracturée, les banlieues à Cergy mercredi, la ruralité aujourd'hui. Le programme de cette première semaine ne laisse guère de doute. Il sait qu'il tient là le grand défi de son second quinquennat.
Et pendant ce temps, le mécano des législatives se met en place avec, et France Inter vous le dévoile ce matin, des ministres qui vont se frotter au suffrage universel, celui de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer parachuté dans le Loiret à Montargis, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dans les Flandres. Ce ne sont pas les seuls qui cherchent un siège à l'Assemblée, un point de chute. Après, le gouvernement détaille sur franceinter.fr et précision à 8h. Alors que le troisième tour social pourrait arriver bien plus vite que prévu dès dimanche, un 1er mai qui risque d'être chaud en Guadeloupe. 12 syndicats appellent à manifester dans un département où le Rassemblement national a réuni près de 70% des suffrages exprimés. Au cœur des crispations, l'obligation vaccinale. 200 soignants et administratifs sont suspendus, moins de 5% des effectifs qui refusent le vaccin contre le Covid. Ils font le siège du CHU où le dialogue semble désormais impossible. Reportage sous les grandes tentes installées depuis des mois sur le parking de l'hôpital de William Delesseux.
Denis Delumeau est agent administratif. C'est l'un des premiers à avoir érigé ce campement devant les barrières de l'hôpital.
J'ai pas vu mon bureau depuis le 8 novembre 2021. On est plus des résistants que des suspendus maintenant.
Camarades, bien bonjour.
La crainte des effets secondaires supposés, selon eux, du vaccin fait tenir ces grévistes. Comme Monique Drouot, derrière son stand de pâtisserie que chacun peut acheter pour alimenter une caisse de grève.
Je suis devenue cordon bleu alors. On se débrouille, hein, puisqu'on n'a pas de salaire, donc il faut bien survivre.
Elle partage la colère de Sylvie Zélateur, aide-soignante.
Je n'ai pas eu autre chose que de la sanction, autre chose que du mépris. Donc oui, le combat continue.
Le délégué du syndicat UTSU-GTG, Gabi Clavier, réclame la réintégration des personnels non vaccinés.
Et le paiement de tous les salaires qui n'ont pas été versés depuis le mois de novembre.
Accéder à ces revendications est impossible tant que l'obligation vaccinale est en vigueur, rappelle Cédric Zolesi, directeur général par intérim du CHU.
Il est important qu'on puisse retrouver un dialogue serein avec les partenaires sociaux. La direction y est prête. Simplement, nous sommes aussi dans l'obligation de respecter la loi.
Un vigile protège désormais son bureau depuis le mois de janvier. Avec l'ancien directeur, tous deux ont été agressés violemment par des dizaines de militants anti-vaccins. Pointe-à-Pitre, William Delesseux, France Inter.
Il est 7h09, autre sujet de tension, le prix de l'énergie.
Et on parle aujourd'hui du bouclier tarifaire, ou plutôt du dispositif imposé par le gouvernement à EDF pour vendre son électricité moins chère à ses concurrents afin de contenir les hausses. C'est ce que va étudier ce matin le Conseil d'État, saisi par 4 syndicats qui dénoncent, Mariam El Kurdi, une spoliation d'EDF.
Un décret dévastateur pour les syndicats d'EDF. Il oblige l'opérateur à augmenter de 20% ses volumes d'électricité vendus aux fournisseurs alternatifs. Une énergie vendue à prix bradé, 46 euros le mégawattheure, alors que les cours sur les marchés dépassent les 200 euros par mégawattheure. Alexandre Grilla, secrétaire national de la CFE-CGC Énergie, a fait les comptes. Pour lui, ça va fragiliser EDF.
C'est une vente à perte de 4,2 milliards pour EDF, imposés par l'État, qui rentrent dans les poches des concurrents d'EDF sans être sûr que cette manne va être réellement rétrocédée aux consommateurs clients de ces fournisseurs alternatifs.
L'objectif du gouvernement est de protéger le consommateur, contenir la hausse des tarifs réglementés de l'électricité à 4% en 2022. Une mesure indispensable donc selon Antoine Autier de l'UFC Que Choisir.
En l'état de la situation sur les marchés de la régulation actuelle, l'augmentation des factures des consommateurs sera à minima de 32% en 2023. Et pour éviter ce scénario catastrophe, il faut agir. On demande que cette décision du gouvernement ne soit pas annulée, faire bénéficier les consommateurs sur leur facture de la compétitivité du parc électronucléaire.
Les syndicats préconisent plutôt une baisse de la TVA sur l'électricité pour protéger le consommateur sans, je cite, « saccager EDF ». Ce sera au Conseil d'État de juger.
L'audience débute à 10h et puis on attend ce matin deux indicateurs importants. L'estimation de la croissance qui sera publiée par l'INSEE dans une demi-heure et les chiffres de l'inflation pour avril. Lui fait face à une inflation incontrôlée. Le président turc a mis sous le tapis les relations glaciales avec l'Arabie Saoudite pour aller chercher le soutien des riches monarchies pétrolières. Première visite à Riyad de Recep Tayyip Erdogan depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi à Istanbul. Il y a rencontré Mohamed Ben Salman et le roi Salman. C'est inédit aux États-Unis. La Californie ouvre une vaste enquête contre la pollution plastique. L'État vise rien de moins que l'industrie pétrochimique. Ça suffit comme ça, dit le procureur général de Californie. Il accuse l'industrie du plastique d'une campagne agressive pour tromper le public, perpétuant le mythe selon lequel le recyclage pouvait résoudre la crise du plastique. Or, la vérité, c'est que l'écrasante majorité du plastique, dit le procureur, ne peut pas être recyclée. L'OM, dernier club de foot français en lice dans une compétition européenne, s'en sort plutôt bien, battu 3-2 à Rotterdam hier. Les Marseillais préservent leur chance de qualification avant le match retour jeudi en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. En littérature, ça s'appelle un pavé. 1,3 kg, 600 pages, à ne surtout pas dévorer d'un coup, mais à picorer pour flirter avec l'imagination débordante de Georges Perec. Le Seuil publie aujourd'hui un inédit de l'écrivain disparu il y a 40 ans. Le titre, Lieu au pluriel, ambitieux projet autobiographique qui consistait à décrire 24 endroits de sa ville natale, Paris. Ilana Mourioussef.
Ce projet titanesque, Perec l'a conçu alors qu'il traversait une période difficile, rupture sentimentale, blocage d'écriture, explique Claude Burgelin, qui signe la préface du livre.
Il va se débloquer en essayant de parler de 12 lieux de Paris qui lui tiennent à cœur, où quelque chose de son histoire s'est accroché. Par exemple, la rue Villain, la belle ville, qui est la rue de sa première enfance, auprès de sa mère, avant qu'elle ne soit déportée.
Il y a aussi la rue de l'Assomption, où il a vécu après-guerre, la place de la Contrescarpe et d'autres lieux encore. Chaque mois, pendant 12 ans, Perec devait décrire deux de ces lieux, une fois en se rendant sur place, de façon neutre, une autre fois sur le mode du souvenir. Le projet est resté inachevé, mais cette publication est une incitation à jouer. Claude Burgelin encourage les lecteurs à lire dans l'ordre qui leur plaît. Le livre existe même en version interactive, gratuite sur Internet.
L'ordre des pages impose un certain ordonnancement, et là on bouscule l'ordonnancement. C'est-à-dire on joue avec l'objet libre, comme au fond je crois que Perec l'aurait désiré secrètement. C'est une expérience de la liberté.
On peut choisir de lire uniquement les textes de l'année 70, uniquement les textes sur la rue Villain. Chacun est invité à composer son propre livre à l'infini.
Lieu de Georges Perec aux éditions du Seuil. Pour ceux qui veulent le kilo de papier, c'est 29 euros.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, secret d'info. Comment EDF a préparé le terrain pour la construction de nouveaux EPR.